Les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
Dans la nuit du samedi au dimanche 14 avril, l'Iran a envoyé plusieurs centaines de missiles et de drones vers Israël. Et si 99% des projectiles ont été abattus avant qu'ils ne frappent leur cible, cette opération reste d'une rare violence et survient après une décennie de tensions latentes entre l'Iran et Israël. Alors comment cette attaque s'inscrit-elle dans les relations plus tendues entre les deux pays? Comment, en particulier depuis le 7 octobre, nous proposons ce matin d'en parler avec deux invités. Héloïse Fayet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse Ali Fri, coordinatrice du programme de recherche sur la dissuasion et la prolifération nucléaire. Et à vos côtés, Michel Duclos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France auprès des Nations Unies, ancien ambassadeur également en Syrie, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur de Diplomatie française. Et pour commencer, Héloïse Fayet, est-ce que cette attaque entre samedi et dimanche marque selon vous un tournant important, majeur dans ce conflit proche-oriental ?
Je dirais que tout va dépendre en fait de la riposte israélienne et c'est ça qui nous permettra de savoir si on est vraiment passé dans une nouvelle ère ou si au contraire il s'agit d'un pic, alors certes très élevé, mais dans une guerre asymétrique et dans une guerre de l'ombre qui dure effectivement depuis je dirais 1979 avec effectivement un petit peu plus d'action. Ces derniers mois, mais ce qui est certain, c'est qu'on est quand même dans un nouveau stade de cet affrontement, étant donné qu'il s'agit de la première attaque directe contre le territoire israélien menée par l'Iran. Mais encore une fois, la suite dépendra évidemment de la capacité américaine à freiner Israël pour une éventuelle riposte.
Michel Duclos, vous faites le même diagnostic. Il faut peut-être attendre de voir pour tenter de savoir si nous sommes entrés dans une nouvelle ère ?
Oui, ou plus exactement, il y a eu effectivement un tabou qui est tombé, donc un seuil a été franchi. La question, c'est de savoir jusqu'où on peut parler d'une nouvelle ère. Ça dépendra effectivement de la riposte israélienne et d'un jeu compliqué, de plus en plus compliqué, qui se joue entre l'Iran, Israël, mais aussi les États-Unis et les parties régionales.
Un seuil a été franchi. Est-ce qu'un seuil d'ores et déjà avait été franchi le 1er avril par Israël lorsque une attaque avait été perpétrée contre l'ambassade, contre le consulat plus exactement, à Damas, contre ce consulat iranien, Héloïse Fayet ?
Pour moi, non. La frappe, donc le 1er avril contre le consulat était certes disons original par le fait qu'elle frappait le consulat et qu'il y avait eu plus de 6 morts à la fois, mais ça s'inscrit dans une politique assez classique par Israël d'assassinats ciblés de dignitaires iraniens à l'étranger. Et donc par exemple fin décembre 2023, il y avait eu une frappe en Syrie contre déjà un général des gardiens de la révolution et ça s'inscrit voilà dans une politique beaucoup plus longue. Et il faut rappeler que de son côté l'Iran a évidemment aussi conduit une politique d'assassinat à l'étranger et parfois d'attaque contre des ambassades ou autres lieux diplomatiques soit israéliens soit européens et occidentaux.
Michel Duclos, le 1er avril dernier, Israël n'a pas franchi de ligne rouge?
Alors, moi, j'avais écrit quelque part qu'il n'y avait pas eu de vraiment franchissement de nouvelles lignes rouges, puisque, comme vient de le dire notre
Héloïse Fayet,
notre collègue, c'était pas la première fois quand même que les Israéliens s'en prenaient à des intérêts et même à des officiels iraniens sur le territoire. Syrien, c'est presque une routine pour eux.
On peut quand même rappeler une quinzaine de morts, ouais, deux gardiens de la révolution tués.
Et donc, du point de vue d'Israël, ça ne faisait pas une très grande différence. Mais tout est question de perception. Et les Iraniens, eux, ont pensé qu'il y avait une très grande différence. Probablement pour deux raisons. La première, c'est effectivement le statut diplomatique de l'implantation qui a été visé cette fois. Mais ça, c'est presque formel. Il y a une raison de fond plus profonde, c'est qu'ils voyaient bien que les Israéliens allaient de plus en plus loin et faisaient des frappes de plus en plus fréquentes contre leurs intérêts ou leur présence en Syrie. Donc ils ont estimé qu'il y a un moment où ils devaient réagir. Sinon, d'abord, ils perdaient en crédibilité auprès des groupes armés de la région qui leur font allégeance et auprès des opinions de la région. Et ensuite, c'était un feu vert donné aux Israéliens pour aller de plus en plus loin et de plus en plus fort contre l'Iran en Syrie.
Dans un message publié sur X, le ministre iranien des Affaires étrangères a assuré, je cite, que l'exercice du droit de légitime défense montre l'approche responsable, je cite encore, de l'Iran à l'égard de la paix et de la sécurité régionale et internationale. Fin de citation. Et Louise Fayet, on est bien, selon vous, dans une réponse disproportionnée de l'Iran?
Alors, le droit international est, disons, bizarrement interprété parfois par l'Iran. En tout cas, ils ont une politique, voilà, d'interprétation pour servir leurs propres intérêts. La légitime défense, elle se caractérise quand on est dans une situation d'immédiateté. Donc, en réponse directe à une attaque qui vient d'avoir lieu. Là, on n'est pas dans ce cas-là, évidemment, étant donné qu'il y a eu plus de 2 semaines entre l'attaque sur le consulat et l'attaque contre Israël, et qu'effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, étant donné qu'il y avait eu une frappe extrêmement ciblée par Israël sur le consulat, enfin la section consulaire à Damas, qui ciblait uniquement des militaires, et que là, les Iraniens ont lancé un barrage de missiles et de drones contre Israël. Alors, évidemment, leur objectif en faisant cela est encore discuté aujourd'hui, étant donné que ça ne fait que 2 jours. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que les missiles soient entièrement stoppés et donc à ne faire aucun dégât? Est-ce qu'ils espéraient au contraire qu'il y ait au moins quelques dégâts afin de ne pas remettre en cause la crédibilité de leur programme balistique? Ça, on pourra en reparler. Mais un point de comparaison intéressant à avoir en tête, c'est les attaques de janvier 2020, après la neutralisation par les États-Unis du général Qassem Soleimani, donc qui était le chef de la force CODES, donc ces forces spéciales des gardiens de la Révolution, qui avait été tué par les Américains en Irak. Alors, pas dans une enceinte diplomatique, parce qu'il était en transit, mais c'était vraiment le personnage emblématique des gardiens de la Révolution, qui avait un rôle très important sur le plan régional. Et les Iraniens avaient répliqué, pareil, avec des frappes balistiques contre des bases américaines, enfin des bases de la coalition occidentale en Irak, quelques jours après, mais cette fois avec beaucoup moins de préavis, et on avait remarqué que les frappes avaient effectivement eu lieu, c'est-à-dire que les bases avaient été touchées, que les missiles n'avaient pas été interceptés, donc ce qui permet de montrer aussi que là, s'ils s'en donnent les moyens, l'arsenal balistique peut être un petit peu plus efficace que ce qui a eu lieu la nuit dernière.
Justement, Héloïse Fayet, du point de vue, là encore, strictement stratégique et militaire, est-ce qu'il s'agit pour l'Iran, cette opération, est-ce qu'il s'agit d'un échec? On rappelle que 99% des tirs ont été interceptés par ce qu'on appelle le dôme de fer. Pour ça, il faudrait peut-être d'ailleurs connaître les ambitions initiales de l'Iran.
C'est vraiment la question qui se pose. Alors déjà, le chiffre des 99% a été donné par Israël, et il y a des renseignements américains qui ont été rendus publics et qui montrent en réalité que dans les cas des missiles balistiques, plus de 50% des missiles balistiques n'ont en fait jamais atteint le territoire israélien, parce que soit leur course s'est arrêtée à cause d'un problème technique, ou alors ils n'ont même pas été lancés. Donc ça permet de relativiser un petit peu en fait les chiffres qui ont été donnés par Israël. Et puis aussi, il faut avoir en tête que cette défense antimissile, elle n'est pas strictement israélienne, étant donné que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie et possiblement la France y ont aussi participé. Donc c'était vraiment un effort collectif. Donc après, est-ce que c'est un échec ou pas par les Iraniens? En réalité, vu qu'ils donneront comme justification et comme explication ce qui sied le mieux à leur narratif, ça reste compliqué à savoir. Mais à mon sens, ils s'attendaient peut-être à ce qu'il y ait quand même un peu plus de dégâts pour montrer l'efficacité de leur programme balistique, mais qu'évidemment, ça restait calibré afin qu'il n'y ait pas de mort civile. Car pour le coup, là, c'était sûrement la voie assurée vers l'escalade. Escalade qui peut toujours avoir lieu en fonction de la réponse israélienne.
Il faut nous expliquer par ailleurs, Michel Duclos, pourquoi l'Iran a choisi en amont de prévenir les États-Unis, de prévenir d'autres pays arabes de cette attaque. Pourquoi, au fond, prévenir indirectement Israël que le pays allait être attaqué?
Je crois que le mot important, c'est celui de calibrer. Et donc, les Iraniens ne pouvaient pas ne pas savoir que peu de leurs engins atteindraient leur cible. D'ailleurs, les cibles étaient elles-mêmes assez mal définies. Hein. Ce n'est pas des engins d'une très grande précision qu'ils ont envoyés. Et ensuite, comme vous le dites, C'était une attaque surprise qui a été éventée par ses auteurs eux-mêmes plusieurs jours à l'avance, avec des systèmes d'armes eux-mêmes très longs. Donc ce serait excessif de dire que c'était un coup à blanc, parce que probablement les Iraniens s'attendaient en effet qu'il y ait quand même quelques dégâts, plus de dommages que ce qui a été le cas effectivement. Mais malgré tout, ça restait une frappe limitée et essentiellement symbolique, destinée à faire beaucoup de bruit, mais pas trop de mal.
Comment est-ce que vous interprétez, là aussi, du point de vue diplomatique, cette opération iranienne? On a beaucoup dit que c'était une grande réussite diplomatique ces derniers jours.
Là encore, il faut être nuancé, parce que ce qui est quand même important, c'est que les alliés d'Israël ont complètement soutenu Israël, et que un certain nombre de puissances régionales, la Jordanie bien sûr, mais aussi l'Arabie Saoudite et d'autres, ont prêté la main à la défense israélienne. Et donc, dans cette région compliquée, tout est ambivalent. Ça montre qu'Israël n'est pas si isolé que cela. Ça, c'est un mauvais point pour l'Iran.
Et que le pays est notamment soutenu par les pays arabes sunnites de la région.
Que l'Iran a essayé quand même de cultiver ces derniers mois. Mais en même temps, dans les opinions publiques, l'effet peut être inverse, c'est-à-dire que les opinions, la rue arabe, comme on disait jadis, les opinions peuvent constater qu'une fois de plus, les seuls qui sont vraiment du côté des Palestiniens sont les Iraniens. Donc, je crois qu'il faut avoir un jugement très nuancé.
Héloïse Fayet, là aussi, du point de vue militaire, est-ce que l'Israël a fait la preuve de son efficacité du point de vue de sa défense, notamment l'efficacité de son dôme de fer? Alors certes, appuyé par ses alliés dans la région, mais tout de même.
Oui, très clairement, le vainqueur industriel, on va dire, de ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 avril, c'est évidemment la défense sol-air israélienne. On sait déjà que, par exemple, les Émirats arabes unis étaient potentiellement intéressés pour acquérir du matériel israélien afin de se protéger d'éventuelles nouvelles attaques de missiles Houthi, voire de missiles iraniens. Ça peut booster, en tout cas, booster les ventes. Et pareil, en Europe, rappelons que l'initiative European Sky Shield, donc qui a été poussée par l'Allemagne afin de construire une sorte de bouclier antimissile en Europe, visait justement à acquérir du matériel américain et israélien. Donc il est certain que ça va relancer le débat autour de l'efficacité d'une défense antimissile.
Michel Duclos.
Oui, je suis d'accord, mais je nuancerai sur un point quand même, c'est que à chaque fois qu'il y a ce genre d'opération, d'abord il y a une disproportion des coûts, hein, malgré tout, c'est que le matériel déployé par les Israéliens coûtait extraordinairement cher, alors que les Iraniens ont procédé de manière un peu cheap.
On peut rappeler effectivement que l'opération aurait coûté pour Israël entre 1 et 1,2 milliard d'euros.
Ce sont les chiffres qu'on avance. Et puis par ailleurs, à chaque fois qu'il y a ce genre de mise en alerte générale, on révèle à l'adversaire son potentiel. Et donc les Iraniens ont dû apprendre beaucoup de choses sur les systèmes de défense israéliens et alliés dans la région, enfin occidentaux notamment. Et donc là, dans les semaines qui vont venir, les militaires des deux côtés vont être obligés probablement d'aménager leur dispositif pour parer aux nouvelles informations que les Iraniens auront acquises. Et de manière générale, il y a aussi un autre facteur, peut-être, c'est celui de la résilience des opinions. L'opinion israélienne est quand même sous le choc, car c'est un pays qui était habitué à des attaques de basse intensité, souvent ne le touchant pas directement, et puis à des crises majeures qui duraient pas très longtemps et dans lesquelles le pays affrontait toute la région, mais dans une sorte de brève épreuve de force. Là, les Israéliens craignent au contraire d'entrer dans une ère de confrontation permanente.
Merci à tous les deux, Héloïse Fayet, Michel Duclos. On va poursuivre cette discussion avec vous deux à partir de 8h20 pour tenter notamment de comprendre la façon dont ce conflit pourrait continuer de s'étendre. Il est 7h56.
6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin Lafay.
Suite de notre conversation sur l'attaque iranienne en Israël, ce week-end, nous posons la question ce matin à nos deux invités, Héloïse Fayet, elle est chercheuse à l'IFRI, Michel Duclos, il est diplomate, ancien ambassadeur de France auprès des Nations Unies, ancien ambassadeur en Syrie, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et peut-être pour commencer ou recommencer, Héloïse Fayet, l'Iran considère sans doute aujourd'hui que le match est terminé, qu'il est clos, est-ce que c'est bien le cas? Et comment peut-être peut-on juger la perspective d'une riposte israélienne?
En tout cas, le match est clos selon les communiqués officiels iraniens qui ont... Enfin, celui de sa délégation à l'ONU qui a expliqué effectivement que l'incident était clos selon eux. Cependant, les unes de la presse iranienne aujourd'hui annoncent que l'Iran a ouvert les portes de l'enfer sur Israël. Donc, est-ce que ça présage aussi d'une éventuelle poursuite de leur côté? Mais il est quasi certain qu'ils ne feront rien tant que les Israéliens n'auront aussi, eux, pas réagi. Et donc, c'est là, évidemment, que se pose la question de l'escalade, des différentes pistes de riposte qui se présente à Israël. On sait que le président Biden a fait beaucoup d'efforts ce week-end pour convaincre Benjamin Netanyahou et son cabinet de guerre de ne pas faire d'action contre l'Iran. Un cabinet de guerre qui a été divisé sur le sujet. Alors il y a plusieurs versions qui combattent, on va dire, enfin qui se confrontent avec certains qui disent que effectivement Netanyahou a renoncé en tout cas à des ripostes immédiates, mais de l'autre côté, l'un des porte-parole de l'armée israélienne a annoncé qu'il y aurait une riposte, mais dans le lieu et le moment de leur choix, ce qui peut dire beaucoup de choses. Hein. Est-ce que ça sera cette semaine, dans deux semaines, dans un mois? Jamais. Mais voilà, ce qui est important, c'est aussi quel sera le choix de la riposte et comment ce sera présenté. Parce que ça peut très bien être une action de bas niveau, un retour à ce qu'on connaissait, cette guerre hybride, cette guerre de l'ombre, mais qui peut être présentée par Israël comme une riposte à ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 avril.
Michel Duclos, en miroir de la position iranienne, est-ce que Israël peut même considérer que le match est clos aujourd'hui?
Je crois que la position de Netanyahou, c'est forcément de dire que le match n'est pas clos, pour maintenir cette incertitude qui fait partie de la dissuasion. Mais il faut qu'il réfléchisse bien à ses options. Et là, il y a plusieurs lectures possibles. Pour certains observateurs, Israël s'est recréé une base qui lui est plus favorable, puisqu'elle a bénéficié d'une solidarité dans la région, et que le combat contre les islamistes et contre l'Iran, c'est un combat sur lequel il est moins isolé. Netanyahou peut estimer qu'il y a là une marge de manœuvre nouvelle à exploiter, qui aura pour lui le grand mérite de distraire l'attention de ce qu'il faut bien appeler son échec à Gaza. L'autre lecture... qui, je veux dire, est plutôt la mienne, c'est que les options sont en train de se restreindre pour le gouvernement de M. Netanyahou, parce que s'il choisit l'escalade, ça veut dire frapper le territoire iranien. S'il s'agit de faire un coup de plus en Syrie, ce serait le retour aux épisodes précédents. Donc, si à son tour, il franchit un barreau dans l'escalade, c'est lui qui en prendra la responsabilité. Et vis-à-vis du monde entier, et notamment des États-Unis, c'est quand même pas un bon point. Donc s'il fait pas ça, il est revenu à la case, qui est que ses options face au Hamas d'un côté, au Hezbollah de l'autre, ne sont pas très appétissantes, dans la mesure où la trêve, pour l'instant, n'est pas en train de réussir. Le Hamas l'a rejeté, c'est quand même l'autre nouvelle du week-end, presque aussi importante à certains égards. Et donc Israël se trouve confronté au même dilemme qu'avant les épisodes de ce week-end.
Est-ce que paradoxalement, Héloïse Fayet, en dépit de l'effroi, de la terreur qui ont saisi les Israéliens dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce qu'Israël ressort plus fort de cette attaque parce qu'on peut considérer qu'effectivement ses alliés, notamment les pays arabes sunnites, ont dû sortir du bois?
Oui, alors pas tous, hein, évidemment, mais en tout cas ceux qui disposaient d'une défense antiaérienne compétente et qui risquaient potentiellement en réalité d'être accusés de n'avoir rien fait s'il y avait ensuite la preuve qu'ils auraient pu faire quelque chose. Donc là, on pense évidemment à la Jordanie. La participation de l'Arabie Saoudite est moins affirmée, disons, à la lutte contre les projectiles qui ont essayé d'atteindre Israël ce week-end. Mais oui, il est certain que l'Iran redevient, en tout cas pour les gouvernements, certains des gouvernements sunnites locaux, le méchant de l'histoire, le méchant de la région. Et donc Israël peut potentiellement, comme l'ambassadeur l'a dit, remettre derrière lui justement ces pays afin de combattre ce qu'il considère être une sorte d'islamisme chiite. Mais les victimes dans ce cas, ce sont évidemment les peuples de la région et en particulier les Gazaouis, étant donné que Israël était depuis octobre 2023, étant donné les exactions et les abus commis à Gaza avec plus de 30 000 morts civiles selon les chiffres du Hamas, Israël avait une mauvaise réputation évidemment qui est au Moyen-Orient. Et là, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que il va apparaître à nouveau en défenseur contre l'Iran? Ça peut être le cas en tout cas au sein des gouvernements arabes. Ça sera probablement moins le cas dans les opinions publiques, comme on en a parlé juste avant.
Comment comprendre, Michel Duclos, ce positionnement ou repositionnement de certains pays arabes? Au fond, le sort de Gaza compte peu par rapport à l'ombre iranienne?
Non, j'allais en venir à cela. C'est quand même un aspect un peu mystérieux de la crise que nous vivons. C'est pourquoi la Jordanie, mais d'autres, parce qu'on dit que l'Arabie Saoudite a laissé son ciel, laissé ouvert son ciel aux avions israéliens. Pourquoi ces pays se sont-ils à ce point, si je puis dire, rangés du côté d'Israël? Une explication possible, hein, mais c'est purement hypothétique, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé avec les États-Unis et qu'ils ont obtenu des États-Unis, en échange de leur solidarité avec Israël sur ce point précis, quelques gages. Et le gage auquel tout le monde pense, c'est évidemment le sort des Palestiniens. Non pas que les gouvernements de cette région soient particulièrement attachés au sort des Palestiniens, mais parce qu'ils sont obligés de tenir compte de leurs opinions. Et dans ce schéma-là, ça ferait partie de l'encerclement d'Israël. C'est-à-dire que certes, les Israéliens ont bénéficié d'une certaine solidarité, mais ils vont devoir donner quelque chose en échange. C'est une hypothèse.
Vous êtes d'accord avec cette hypothèse?
Oui, mais le problème, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou va accepter justement de réaliser les promesses qui, rappelons-le, n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, effectivement, est-ce qu'il va peut-être être tenté, au contraire, de gagner tous les bénéfices d'avoir résisté face à cette attaque iranienne, et puis en fait de continuer sa politique de pilonnage de Gaza? Malheureusement, c'est aussi possible quand on sait qu'à quel point la relation entre les États-Unis et Israël est mauvaise, et on ne sait pas à quel point justement la pression exercée par le président Biden sera suffisante pour d'un côté dissuader Netanyahou d'aller et son cabinet de guerre d'aller vers l'escalade, et puis de l'autre de faire aussi un effort d'ouverture à Gaza.
Les États-Unis, justement, venons-y. Est-ce que la riposte aujourd'hui, ou plutôt la manière de contenir la riposte, dépend de la capacité des États-Unis à faire pression sur Israël, Michel Duclos?
Pour moi, c'est quand même la grande leçon, la grande inconnue maintenant. On a vu que les Israéliens hésitent sur leurs propres options, mais la vraie inconnue, c'est jusqu'à quel point Washington va continuer à tolérer cette action autonome d'Israël que vient de décrire Héloïse, parce que c'est vrai que probablement Netanyahou, lui, a l'intention de continuer naturellement à taper sur Gaza. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où les États-Unis lui diront « maintenant ça suffit » ? Et là, en quelque sorte, Biden accumule les cartes pour que ce moment soit le plus proche possible et qu'à ce moment-là, il puisse parler avec le plus d'autorité possible. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que cette administration ne jouera pas du levier du refus de transfert d'armes. Mais cette administration a d'autres leviers. Un levier important, c'est que le gouvernement d'Israël est divisé et qu'une partie des ministres de M. Netanyahou sont, pour caricaturer, plus proches de Washington que de leur Premier ministre.
Certains se sont en effet exprimés contre une riposte directe dès hier.
Et donc, maintenant, il va falloir surveiller, je crois, de très près le dialogue, si je puis dire, entre Washington et Jérusalem.
Et Louis Fayet, vous êtes là aussi d'accord? Est-ce que, au fond, les États-Unis ont cette capacité à empêcher une riposte directe d'Israël aujourd'hui?
Alors, je pense que les États-Unis ont en tout cas la capacité à limiter l'envergure de la riposte, notamment parce que que l'armée israélienne conduise une action autonome efficace sur le plan militaire contre le territoire iranien sans soutien américain, c'est quelque chose de très compliqué. La défense antiaérienne iranienne est considérée comme efficace. Bon, elle n'a pas récemment été testée, donc évidemment il y a des doutes là-dessus. Mais si par exemple les Israéliens décident dans un moment de folie, d'égarement et de volonté de tout mettre sur la table, d'aller par exemple taper les sites nucléaires iraniens, comme ça circule, hein, cette piste évidemment, par exemple sur des chaînes israéliennes, mais aussi sur des commentateurs américains proches du pouvoir israélien, il est très improbable qu'ils arrivent à faire des dégâts conséquents et donc de matière à limiter le programme nucléaire iranien et d'avoir un impact sur ce programme sans soutien militaire américain. Or, comme on l'a dit, le président Biden a dit qu'il ne soutiendrait pas militairement, diplomatiquement, stratégiquement une attaque contre le territoire iranien et, à mon sens, un raid israélien, une attaque israélienne contre l'Iran qui échouerait serait pire qu'une attaque qui n'a pas lieu.
Quel rôle les alliés de l'Iran ont-ils joué dans cette opération du week-end? Je pense notamment au Hezbollah au sud du Liban et au Yémen.
Alors, on n'a pas le détail précis du pourcentage de missiles qui ont été tirés depuis le Yémen, donc depuis par les Houthis, mais il est certain qu'il y en a, qu'ils ont été interceptés notamment par les forces américaines présentes dans la zone. Et le Hezbollah a aussi lancé des missiles sur le nord d'Israël. Israël a d'ailleurs fait des premières réponses spécifiques visant le Hezbollah. Mais là aussi, c'est une inconnue parce qu'on sait que la capacité de contrôle par l'Iran de son réseau de milices chiites ou sunnites au Moyen-Orient n'est pas entier. C'est-à-dire qu'ils ont un degré d'autonomie. Là, on voit qu'ils ont réussi quand même à les contenir et que potentiellement, si l'Iran avait voulu faire plus de dégâts, il aurait sûrement autorisé, disons, ou favorisé des attaques de bien plus grande ampleur par le Hezbollah, par les Houthis, éventuellement sur le plateau du Golan et puis aussi contre les intérêts américains et occidentaux en Irak et en Syrie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est un autre facteur potentiel d'escalade.
Michel Duclos, on peut considérer que cette opération du week-end est pour l'Iran également une réussite diplomatique parce que le pays a réussi à redynamiser ce qu'il appelle lui-même l'axe de la résistance, c'est-à-dire cet ensemble de groupes un peu informels composés des Houthis, de certaines milices en Irak et notamment du Hezbollah au sud du Liban.
Moi, je dirais les choses un peu autrement. Je crois que de son point de vue, l'Iran n'avait pas le choix, sauf à perdre en crédibilité vis-à-vis des opinions, mais aussi surtout vis-à-vis des groupes qui lui font allégeance.
Pourquoi ?
Donc c'est plutôt parce que depuis le début de ce conflit, ceux qui vont au front, si je puis dire, ceux qui vont au turbin, du point de vue de l'axe de la résistance, comme vous dites, c'est les Houthis, c'est les milices irakiennes, c'est le Hezbollah, et l'Iran est en deuxième rideau. Donc là, si l'Iran ne bougeait pas, alors même que les Israéliens les avaient, entre guillemets, provoqués, l'Iran perdait un peu la face vis-à-vis de ses propres soutiens. Ça ne veut pas dire pour autant que les Iraniens aient spécialement dynamisé des groupes qui, pour l'instant, restent mobilisés. Bon, parmi ces groupes, il y en a un qui est plus important que les autres, c'est le Hezbollah, dont on connaît la posture ambiguë, parce que évidemment, ils souhaitent beaucoup détruire Israël, taper sur Israël, etc. Mais en même temps, c'est un parti libanais qui se rend bien compte des risques qu'il encourt et des dégâts que pourrait causer des attaques israéliennes contre lui. Avec là aussi, je crois que cette nuit, la nuit précédente plutôt, c'est pas complètement clair que l'échange de roquettes du Hezbollah et d'Israël était complètement lié à la riposte iranienne. Ça pouvait être auto-entretenu, si je puis dire. Et
L'autre nouvelle qu'il faut aborder, l'autre nouvelle importante, vous avez d'ailleurs commencé, Michel Duclos, à la mentionner, c'est le rejet de la trêve par le Hamas, auquel a pu contribuer le meurtre des enfants et des petits-enfants du chef du Hamas. Quelle analyse vous faites de ce refus de la trêve ?
Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec effectivement la mort des trois fils et des petits-enfants de Haniyeh. Malgré tout, ça peut y avoir contribué, malgré tout. Et en toute hypothèse, pour moi, la leçon, c'est que le Hamas se sent encore suffisamment fort pour continuer à maintenir le combat. Peut-être là aussi, d'ailleurs, lui, peut-il craindre une trêve, et il craindrait certainement un arrêt des combats, parce que s'il sortait des ruines à l'air libre, à la fois il serait un triomphateur pour beaucoup de Palestiniens, mais en même temps, pour les Gazaouis eux-mêmes, il serait le principal responsable d'une ruine épouvantable, d'un massacre effroyable. Donc là, ambiguïté, de ce point de vue là aussi, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré tout, c'est pas bon pour Israël, parce que ça prouve que ses options sont toujours aussi restreintes. Si je peux ajouter quelque chose, il y a, je pense, une victime collatérale, c'est l'Ukraine, et un vainqueur, c'est la Russie et peut-être la Chine. C'est plus ambigu pour la Chine, parce que la Chine a aussi besoin d'un peu de stabilité dans cette région. Mais pour la Russie, tout cela, c'est bon pour elle, puisque pendant que ces drames se déroulent, et pendant que toute l'attention est concentrée... On détourne le regard, et notamment l'énergie des capitales occidentales, et de Washington en particulier, est détournée de la guerre en Ukraine.
Un mot, Héloïse Fayet, sur ce refus de la trêve par le Hamas. C'est une information qui a été livrée hier par les services secrets israéliens. Comment est-ce que vous l'interprétez ?
Ça n'a rien de surprenant. Tant que le Hamas sentira qu'ils ont encore quelque chose à exploiter au niveau de Gaza et qu'ils ont la capacité toujours de résister, selon leurs propres termes, aux opérations israéliennes, ça me paraît effectivement improbable qu'ils acceptent une trêve. Monsieur l'ambassadeur l'a très bien dit, ça les obligerait à sortir, à s'exposer potentiellement au désaccord, en tout cas, de la population gazaoui. Et surtout, en fait, étant donné que les capacités israéliennes militaires n'ont pas été affectées par l'attaque iranienne, il n'y a pas de raison de penser que les opérations israéliennes vont s'arrêter. Et un point peut-être très rapide sur l'Ukraine et la Russie, je pense qu'il y a quand même peut-être un point positif là-dedans, c'est qu'étant donné que l'arsenal balistique, missiles de croisière et de drones iraniens peut-être un petit peu perdu en crédibilité, étant donné qu'une grande partie a été arrêtée par la défense anti-aérienne israélienne et occidentale, ça remet en question ce fantasme, en fait, des Iraniens absolument indispensable à la Russie pour être efficace dans la guerre en Ukraine. On avait déjà des doutes sur la pérennité de cette alliance, sur l'efficacité des missiles, enfin surtout des drones, en fait, qui sont livrés par les Iraniens à la Russie. Donc là, c'est déjà peut-être un point positif de voir que c'est pas si efficace que ça. Mais évidemment, l'Ukraine est bien sûr une victime, étant donné que pendant ce temps-là, à Washington, le paquet d'aide à l'Ukraine est toujours bloqué.
Ce qui frappe, pour revenir au Proche-Orient, ce qui frappe Michel Duclos, c'est qu'aujourd'hui, trois camps radicaux sont impliqués directement dans ce conflit. Le Hamas à Gaza, Netanyahou, son gouvernement en Israël, le régime des Mollahs en Iran. Comment peut-on même espérer que les choses puissent ne pas s'embraser plus encore dans les semaines à venir ?
Écoutez, là, vous êtes trop dur comme... si tôt le matin, poser des questions aussi terribles. Oui, on a le droit d'être très pessimiste, naturellement. Il faut agir. Et je pense qu'il faut agir aussi en tenant compte des perceptions de tous les acteurs du monde, y compris ce qu'on appelle maintenant le Sud global. C'est-à-dire, il y a quelque chose de terrible à voir que nous convoquons les ambassadeurs iraniens pour protester contre cette frappe, alors qu'on n'a pas condamné vraiment l'action d'Israël sur le consulat iranien à Damas. Et pour nous, il y a des justifications à cela, bien sûr, parce que c'était un consulat, mais en même temps, les consulats, c'est pas fait pour servir de lieu de rencontre de chefs militaires pour planifier des actions contre un pays voisin. Mais dans beaucoup de pays dans le monde, c'est pas comme ça que c'est vu. Dans beaucoup de pays dans le monde, c'est vu comme un double standard, un deux poids, deux mesures. Donc je crois que dans les jours qui viennent, il faut une action collective. Là, c'est le diplomate qui parle, bien sûr. Il faut une action collective très forte pour essayer de juguler l'escalade. C'est bien que le G7 ait condamné, si vous voulez, l'action iranienne. Mais est-ce que ça fait avancer le Schmilblick? Je ne suis pas sûr. Et l'action collective qu'on doit déployer, elle doit cette fois tenir compte des sensibilités du reste du monde.
Et Loïs Faillet, une réaction est peut-être sur ce double standard perçu ou réel du point de vue du Sud global?
Oui, enfin, c'est quelque chose en fait j'aime pas trop l'expression de Sud global, mais on va l'employer quand même ici, reproche à l'Occident, bah, déjà, en fait, surtout depuis octobre 2023, où, en fait, effectivement, il y a un soutien qui est apporté à Israël avec des exactions à Gaza, et donc il y a des comparatifs, en fait, qui sont faits entre les actions russes en Ukraine et les actions israéliennes à Gaza, qui ne sont, à mon sens, pas comparables, mais c'est en tout cas des narratifs que l'on retrouve dans des pays africains, en Amérique latine, en Asie, et donc c'est ça, en fait, qui risque évidemment de nuire à l'action du multilatéralisme.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin au micro de France Culture nous éclairer sur cette attaque iranienne en Israël ce week-end. Loïs Faillet, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IFRI. Michel Duclos, vous êtes diplomate conseiller spécial à l'Institut Montaigne.